Culture Média, Pascal Clark.
Eh bien non, le coronavirus n'aura pas eu la peau de Fort Boyard. Samedi soir, vous verrez bel et bien Passepartout et ses clés, le père Fouras et ses énigmes, Felindra et ses tigres. Tout juste quelques masques ont-ils fait leur apparition sur le fort. Bonjour Olivier Mine.
Bonjour Pascal.
Merci beaucoup de passer par le studio de Culture Média.
Merci à vous.
La 31e saison de Fort Boyard démarre samedi. Est-on passé tout près de son annulation ?
Oui, on peut le dire, en effet. D'abord parce qu'on était dans le flou le plus complet sur la situation sanitaire de la France et comment tout cela allait traîner jusqu'à l'été. Et dans ce cas, si on avait eu un déconfinement uniquement juillet, c'était donc impossible d'envisager un tournage. Et puis au-delà de ça, quelles auraient été, même avec un déconfinement comme celui qu'on a vécu, quelles allaient être les conditions sanitaires pour pouvoir envisager un nouveau tournage? Nous ne le savions pas encore en mai. Et donc c'est vrai que c'est très rapidement, une fois qu'on a su qu'il était possible d'envisager un tournage comme celui du Fort, qu'on a tout mis en marche. Ça a été rapide au presto.
S'il y avait eu annulation, les dégâts économiques auraient été importants. Hein. C'est vraiment un truc lourd, Fort Boyard, pour la chaîne, pour la boîte de prod, pour la région aussi.
Pour la région également. C'est vrai que Fort Boyard, ça n'est pas qu'une émission de jeu, ça n'est pas qu'un divertissement, c'est encore autre chose. C'est un objet hybride de télévision. Et comme l'a dit d'ailleurs Alexia Laroche-Joubert, qui préside aux destinées d'ALP aujourd'hui, l'annulation du jeu aurait entraîné, par effet domino, toute une série de très gros problèmes. D'abord, la fermeture d'Adventure Line Production certainement, ou en tout cas possiblement, et puis tout ce qui avait trait aussi à l'attractivité. Alors heureusement, la Charente-Maritime n'a pas que Fort Boyard pour attirer les gens, bien sûr, mais c'est un peu la Tour Eiffel quand même de la Charente.
Ouais.
Et donc voilà, donc tout ça faisait qu'il y avait de grosses angoisses, mais tout est derrière nous maintenant.
À quelle date ça s'est décidé? On y va, on le fait?
Ça s'est décidé vers le 20 mai, quelque chose comme ça, oui. On a eu à peine 3 semaines, même pas 3 semaines, pour ouvrir le fort. Ce qu'on appelle ouvrir le fort, c'est-à-dire en fait le remettre en état de marche, remettre les câbles électriques, parce que tout est déshabillé chaque année, parce que évidemment l'air marin est trop corrosif. Donc c'était une course-poursuite.
Alors 11 émissions, ça y est, sont en boîte pour l'été.
Oui.
Le dernier tournage n'est pas si loin, le 26 juin. Vous, le présentateur de Fort Boyard, est-ce que vous avez senti la différence fatalement sur le tournage? C'était plus loin, ça va encore, plus masqué, plus testé?
Sincèrement, sorti du fait qu'en effet nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, sorti du fait que nous portions des masques tous pour le voyage entre la Terre et le fort, et le fait que les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée, ce qui n'était pas le cas de votre serviteur, parce que évidemment devant la caméra c'était compliqué d'animer masqué pour tout le programme, tout comme d'ailleurs les candidats arrivent masqués dans le programme, ça dure quelques secondes, et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leur masque, et puis ainsi on peut jouer, puisque chacun partira dans un point ou l'autre du fort, accompagné seulement par Passepartout, qui est masqué. Donc en gros, on a suivi à la lettre.
C'est en plein air, Fort Boyard.
Aussi,
on sait maintenant que, enfin on sait, on croit savoir, oui, qu'en plein air, ça va.
Ça va un peu mieux. Cela dit, il y a plein de séquences qui se jouent à l'intérieur des cellules. Ces séquences-là se font en solo. Et quand elles sont en duo, dans ce cas-là, les candidats se remasquent ou portent des visières. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons été très vigilants avec la préfecture pour que tout soit, soit au cordeau par rapport à ces exigences. Ouais.
Ça a créé un petit climat. Est-ce que ça a aussi apporté des choses? Parfois, les contraintes produisent des effets étonnants.
C'est vrai. Et ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que dans la capacité qu'ont eu les candidats entre eux à jouer, à s'entraider, à s'encourager, tout ça a été sans doute démultiplié parce que chaque fois, l'un ou l'autre partait seul. Vous le savez bien, un effet de groupe a toujours plus de force, d'impact sur le développement d'une énergie, sur le courage que l'on peut avoir à dépasser ses limites. Ici, c'était moins le cas. Ça aurait pu être moins le cas. Je reprends ce que j'étais en train de dire, parce que ça ne fut pas le cas. La capacité qu'ils ont tous eu à s'entourer différemment a été très bénéfique et a, j'allais dire, participé davantage encore à l'esprit du Fort Boyard, qui est le fait que rien ne peut se faire si nous ne sommes pas ensemble.
Alors, Olivier Mine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la première émission de samedi soir? Alors, il y a le chouchou de Koh-Lanta. Claude. Il s'est blessé, il paraît.
Il paraît.
Comment oui. ça, il paraît, vous ne savez pas?
Si, bien sûr que je sais, j'étais là.
Vous allez
là.
Faire des mystères sur Fort Boyard?
Non, non, je ne vais pas commencer, vous savez bien, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas de cette espèce-là. Mais non, non, il s'est blessé, mais sincèrement, légèrement. Bon. Claude, d'abord, est quelqu'un qui est résistant, au-delà de ça, mais il y a le fait que voilà, la blessure n'était pas majeure. On essaie d'ailleurs au maximum que les blessures ne soient pas majeures. Et quand elles arrivent, ce qui fut le cas pour Claude, très rapidement, le médecin a checké et il a pu continuer à faire le programme. Donc en effet, il y a Claude qui est un aventurier de Koh-Lanta emblématique et qui s'est montré à la hauteur de, son, mmh. de sa réputation.
Donc il y a aussi Tom Leb qui a failli faire l'Eurovision et puis il y a Miss France qui a subi un incendie de, dans son immeuble.
J'ai récemment. Appris ça en effet.
C'est bien parti votre affaire.
on ne pourrait pas rêver meilleur teaser finalement pour cette première.
Est-ce que cette 31e édition a quand même un goût particulier, Olivier Mine, vous le sentez bien, c'est vrai, il n'y a pas eu de festival de Cannes cette année, Roland Garros et le Tour de France, c'est pour plus tard, on a besoin de repères dans la vie... Générique.
Demain soir, le grand vaisseau de pierre revient en force.
Le père Foix et sa troupe sont donc prêts au combat car ils auront face à eux 5 aventuriers qui ont bien décidé d'écrire une nouvelle page de la légende.
Bon bref, générique. Et vous, cette pandémie, elle vous a déstabilisé personnellement ou...
Perso, non. Mais elle ne m'a pas déstabilisé parce que je viens d'une éducation qui a été copartagée par des gens qui sont nés au 19e siècle et au tout début du 20e siècle.
Qu'est-ce que vous racontez,
j'étais dans un appartement où plusieurs générations se côtoyaient et moi j'ai connu voilà, des gens du 19e. Voilà, ça paraît étrange au 21e siècle de dire ça, mais c'est ainsi. J'ai été élevé par ces gens-là aussi. Et donc je dis ça pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont vécu la grippe espagnole, qui avaient vécu de guerre, qui avaient vécu des épidémies, qui en fait sans doute... À l'époque, c'était inconscient de ma part, ont distillé dans mon esprit le fait que la vie était fragile, que la vie valait la peine d'être vécue parce qu'elle, justement, elle ne durait pas longtemps et qu'il fallait en profiter. Donc je n'ai pas.
Vous avez ça en vous ?
Ah oui, clairement.
Ouais.
Clairement. Donc tout ça ne m'a pas donc déstabilisé puisque cette période n'a été que la confirmation de tout ce que j'avais entendu et de tout le, comment dire, de tout ce qui m'avait imbibé, même si je n'aime pas trop le verbe, mais qui m'avait imprégné en tout cas quand j'étais enfant.
C'est votre 18e saison, je crois bien à la présentation, Olivier Mine.
18e, oui.
Pas de lassitude ?
Non, sincèrement, pour deux raisons. La première, c'est que le jeu se réinvente chaque année. Et puis, il y a aussi une donnée que les téléspectateurs ne peuvent pas toujours vraiment apprécier, c'est la relation qu'un animateur peut avoir avec la production et avec ses équipes techniques. Moi, je viens de la technique. Quand j'ai commencé il y a presque 34 ans, à la télévision, j'étais assistant cadreur, assistant déco, j'ai commencé comme ça. Moi, mes premiers potes, c'est pas la prod, c'est pas les dirigeants de chaîne, ce sont les manutentionnaires, ce sont les chefs éclairaux ou les éclairaux, ce sont les assistants cadreurs, voilà, c'est ça ma famille de départ. C'est pas les salons à Paris. Mmh. Voilà.
Bon, et puis présenter Fort Boyard, c'est pas la mine.
Sincèrement, prendre un bateau tous les jours pour aller tourner une émission de télévision, c'est suffisamment surréaliste pour ne pas lasser la personne qui se trouve dans le bateau.
Moi, j'ai fait ma petite blague, je suis contente. Olivier Mine est dans Culture Média. On revient tout de suite dans pas longtemps, je vous jure.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Fort Boyard sera bel et bien à la télé samedi soir. La saison est lancée et ça rassure dans ce monde très incertain. L'une des nouveautés de cette nouvelle saison, Olivier Mine, c'est l'apparition de cette espèce d'animateur télé caricatural de perfection. Il s'appelle Cyril Gosbeau. Gosbeau, vous l'avez hein? Ah, vous renversez un peu, vous allez le trouver, incarné par Cyril Féraud.
Si tu n'as rien dans la tête, tu t'en prends plein la tête.
Voilà, il a l'air assez étincelant, non ?
Il est étincelant, en effet. Il est remarquable en tout point, comme vous l'avez souligné. Cet animateur-là n'a aucun défaut, si ce n'est peut-être celui de se regarder davantage qu'il ne regarde ses candidats ou la caméra qu'il vise. Mais en fait, ce qui est très drôle avec ce que fait Cyril Féraud dans l'incarnation de ce personnage, c'est que c'est une sorte de mise en abîme assez surréaliste de ce qu'est un animateur de jeu, un animateur de télévision certes, mais en plus un animateur de jeu. J'ai trouvé ça très bien.
Et vous en rencontrez beaucoup des comme ça ? Pour de vrai.
Fort heureusement, en apparence, non. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont parfois très proches de Cyril Gosbeau. On ne donnera pas les noms, mais oui.
Non, on n'a pas besoin de donner
j'en ai une petite liste quand même.
Ouais. Ah, c'est vrai
ouais.
Et alors ?
Bah, et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, vous savez, c'est comme le cinéma, la télévision. Finalement, de ce point de vue-là, il y a un terrain commun qui est le mentir vrai. Il y en a quand même pas mal qui, dans nos métiers, arrivent à mentir vrai, donc à créer une façade, une apparence suffisamment plaisante et pour donner l'idée que ils ne sont pas si intéressés que ça par eux-mêmes, alors qu'en fait, c'est leur sujet principal.
Mais peut-être qu'il faut, non ? Vous vous faites je autrement ?
Pense. Moi, c'est pas que je... Et attention, quand je dis ça, je ne les blâme pas, d'ailleurs, parce que je pense que finalement, c'est important pour pouvoir résister dans ces métiers-là, à aussi avoir conscience de soi et à s'aimer. Moi, j'ai sans doute, et ça ne s'est pas vraiment plus que ça corrigé, j'ai toujours eu un peu de peine à m'aimer suffisamment et en tout cas à trouver que le sujet de ma personne était à ce point intéressant que je puisse m'y pencher moi-même. En fait, oui, je suis de ceux qui pensent que les autres sont plus intéressants que soi. Dans mon métier, pas toujours la meilleure des solutions pour durer.
Alors, Fort Boyard, c'est aussi l'émission des corps.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est très très physique, ce sont les corps qui s'expriment. Il se trouve, Olivier Mine, que vous êtes confié dans l'équipe, le journal d'équipe, sur le vôtre de corps, et j'ai trouvé ça très intéressant. À la télé, quand vous avez commencé, disiez-vous, donc c'était sur Antenne 2, et vous avez commencé comme speaker.
Speaker,
oui. Hein, speakerine, mais en homme, à l'âge de 22 ans. Et vous dites, j'étais taillé comme un cure-dent.
Oui, 1m60. 61 kilos pardon, pour 1m91, c'est très 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 fin, très mince.
Et en quoi ça a joué sur quoi d'ailleurs ? Sur le non-respect que vous projetiez ou...
Ce qu'il y a de certain, en tout cas, moins le corps d'ailleurs que le visage, qui était un visage d'un post-ado, et qui, ce visage-là m'est resté pendant un long moment. C'est certain que oui, on donne moins de responsabilité, ou en tout cas moins de crédibilité à quelqu'un qui semble être tout droit sorti du lycée, ou qui même semble être encore au lycée. Mmh. Donc voilà, oui, certainement.
Et 30 ans plus tard, vos mensurations ?
Mes mensurations se sont légèrement... confinement en plus aidant, mes mensurations ont légèrement changé. Aujourd'hui, j'ai perdu un peu malgré tout. Je suis à 94 kilos, j'ai perdu 7 kilos depuis 2 mois à peu près, mais oui, 94 kilos pour 1m90, parce que la bête se tasse, vous savez, c'est toujours la même chose. La gravité aidant. Mais donc voilà où on en est.
Et parce que aussi, depuis 20 ans, Olivier Mine, vous êtes tombé dans le sport, je dis ça comme on dirait tomber dans la drogue, non ?
On pourrait dire ça, si ce n'est qu'heureusement, ça n'a pas été à ce point addictif que je sois tombé dans le piège il n'y a que mon corps qui m'intéresse, je vais essayer d'être le plus gonflé de moi-même ou le plus habité par moi-même en chair, possiblement. Donc je n'ai pas été dans tout ça, j'ai pas pris de stéroïdes, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit lorsque mon corps s'est transformé. Je ne suis pas parti dans tout ça. En fait, et c'est ce que j'explique dans l'équipe magazine, je ne me suis simplement mis au sport que pour résister à la tentation de la dépression. Et en fait, je ne travaillais pas ce corps pour essayer de changer d'apparence. Ça n'est que quand je suis revenu à la télévision que j'ai senti que le regard des autres posé sur moi avait changé.
Ça a correspondu à votre traversée du désert.
Oui,
voilà.
Oui, on peut dire ça, tout à fait.
Non, mais c'est vrai,
c'est parce que le désert n'a pas été non plus extrêmement long.
Non,
c'était un an et demi à peu près.
Oui, voilà.
Eu des déserts plus longs.
Le sport, vous avez commencé à le pratiquer à Los Angeles, je crois, où vous passez la moitié de votre vie, enfin en temps normal. Là, vous dites quoi, que vous n'êtes pas prêt d'y retourner, hélas ?
Non, j'y retourne demain.
Ah, mais comment faites-vous ?
Je repars demain. Le statut de résident permet de rentrer aux États-Unis. Ouais.
Vous ne craignez pas d'aller en ce moment aux États-Unis ?
Écoutez, non, pour deux raisons. La première, c'est parce que je vais faire attention, d'abord. Et puis, deuxièmement, parce que, encore une fois, pour revenir à ce qu'on se disait sur est-ce que cette crise a changé des choses en moi, et que je vous répondais pas plus que ça, je suis bien conscient que, de toute manière, tout ça, sorti de ce qu'on peut faire, nous, à titre individuel, tout ça nous échappe, et que, voilà, s'il doit arriver une chose ou l'autre, elles arriveront. Et puis, c'est tout. Moi, je ferai de mon côté ce qu'il y a à faire, attention, et puis on verra bien.
C'est à LA, en tout cas, que se situe un hôtel assez mythique. Est-ce que vous connaissez Angus et Julia Stone ?
Non.
Eh bien, ce sont des frères et sœurs australiens, et ils chantent ça. Voilà, Château Marmont, je vous recommande d'écouter ce morceau, il est très beau. Ouais. C'est l'endroit où se tient votre roman qui vient de sortir chez Séguier. Il nous reste très peu de temps pour en parler, malheureusement. Ce roman s'appelle Un château pour Hollywood, faits réels qui se sont produits dans ce château mythique et vous avez romancé dessus.
J'ai écrit une histoire, l'histoire d'un garçon qui s'échoue, car c'est vraiment ça qui s'est passé, qui s'échoue sur les collines d'Hollywood et puis qui finira par trouver refuge dans ce château. Et à partir de là, une rencontre improbable avec une ancienne star du muet, complètement déchue, va changer sa vie et la vie de la vieille dame aussi. Parce qu'encore une fois, les destins ne sont jamais linéaires. C'est tout l'objet de l'histoire de ce roman.
Mmh, c'est votre premier roman avec en exergue une citation du poète René Char. Je vous laisse dire.
Je la connais pas par cœur.
Ah bah je vais la dire alors. Il n'y a que deux conduites dans la vie, où on la rêve, où on l'accomplit.
Mais voilà. Et je pense que c'est pour faire un clin d'œil à ce qu'est Hollywood, à ce qu'est le métier d'acteur, oui certainement, et puis aussi un clin d'œil à la télévision.
Merci beaucoup.
Merci
Olivier Mine d'être venu dans Culture Média. Fort Boyard revient samedi sur France 2, 31e saison. Merci à vous.